voix nue. Cette semaine, Dany Legras rencontre Elisabeth de Fontenay. Ce soir, l'enchantement philosophique.
Bonjour Elisabeth de Fontenay.
Bonjour Dany.
Elisabeth de Fontenay, nous avons parlé du silence de votre mère, ainsi que celui de votre frère, les contradictions d'une double origine et votre intérêt pour les langages. Vous avez vécu l'expérience de l'anéantissement, mais vous refusez, et ça c'est moi qui l'ai dit, de tirer un trait sur l'espoir, non pas l'espoir d'un monde meilleur, mais celui d'un ressaisissement des hommes. La notion de compassion est présente dans tous vos travaux. D'un acte de naissance, l'entretien que vous avez accordé à Stephen Bou, vous affirmez « La philosophie, c'est à la fois un champ de bataille où il s'agit de repérer son camp et un palais, disons un somptueux édifice que j'ai parfois envie d'ébranler et même à certains moments de ruiner, mais il reste que ça aurait été ma demeure. » Je vous propose, Elisabeth de Fontenay, qui dans ses troisième entretien, nous évoquions quelques philosophes qui ont permis l'édification de cette demeure. Commençons peut-être par Diderot, l'homme, selon vous, de toutes les réconciliations, et à qui vous avez consacré un livre, Diderot ou les matérialismes enchantés. Qu'avez-vous trouvé en lisant Diderot, Elisabeth de Fontenay?
J'ai trouvé un homme multiple, plein de contradictions, et qui ne s'en faisait pas de ces contradictions, qui n'en faisait pas un drame, qui en faisait une joie, un plaisir, le plaisir de discuter, le plaisir de se confronter. J'ai trouvé un matérialiste, joyeux, et un homme de la, encore une fois, de la contradiction, qui ne se transforme pas en dialectique. C'est-à-dire qu'il ne transforme pas en calme plat. C'est très difficile pour moi d'évoquer Diderot maintenant, parce que c'est un peu loin de moi, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai adoré, qui ne me ressemble pas du tout, avec qui je n'ai pas tellement d'atomes crochus, mais qui n'est pas du tout un homme du XVIIIe siècle comme on l'entend habituellement. Ça n'est pas du tout comme Voltaire, un homme anti-religieux, un peu méchant, ironique. Ça n'est pas comme Rousseau, cet immense Rousseau, le philosophe du droit naturel. Écoutez, ce que je veux vous dire maintenant, à l'âge que j'ai, à l'heure qu'il est, il déjoue la philosophie des Lumières. Or, je sais pas une passion pour la philosophie des Lumières. Je préfère le XVIIe siècle. Alors, les Lumières, c'est l'émancipation, je sais bien. C'est un grand moment de l'histoire de l'Europe, un moment fondamental. Mais Diderot déjoue tous les classiques des Lumières, tous les classiques de l'émancipation, tous les classiques de la libération des esprits, tous les classiques de la pensée anti-religieuse. On le trouve toujours là où on ne le cherche pas, voilà.
Qu'est-ce que vous aimez, vous dites, que vous aimez, vous préférez les XVIIe siècle? Qu'est-ce que vous aimez tant?
Je vous ai parlé de ma passion de Descartes. J'aime beaucoup la littérature du XVIIe siècle. L'espèce de souveraineté, la pensée du XVIIe siècle. Alors, les Lumières ont mis ça à mal.
Elisabeth de Fontenay, vous écrivez « Son matérialisme, à propos de Diderot, n'est pas encore mauvais coucheur ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Un mauvais coucheur, c'est un emmerdeur. Et Diderot est plutôt gentil, il est gentil avec tout le monde, même s'il est très critique parfois. Et il n'essaie pas de pourfendre. Il n'essaie pas de détruire, il n'essaie pas de passer à autre chose. Il s'installe dans le monde comme il va, dans la pensée comme elle va. Il butine de façon très, très audacieuse, un peu méchante parfois, mais finalement, il n'est pas du tout dans l'état d'esprit général de mise en cause de la religion. Il a un très bon rapport à la religion. Complètement libre, complètement athée, complètement matérialiste, mais ça n'est pas son ennemi numéro un. Son ennemi numéro un, c'est la bêtise. C'est la connerie qui n'a pas de, c'est l'infini de la connerie. Il est contre l'infini de la connerie. Voilà.
Et quand vous parlez de Diderot, une fois de plus, j'ai l'impression que c'est la question du sensible qui vous intéresse
bien
chez
sûr.
Lui. Avec son mot d'ordre, élargissez Dieu qui suggère les rapatriements de toutes les figures de la vie, les sourds, les aveugles, les filles mères, tous ceux et celles qui ne sont pas conformes au code de la normalité et de la moralité. Est-ce que...
Absolument, absolument d'accord avec ça. Si c'est moi qui le dis en plus.
C'est vous qui le dites. Évidemment, c'est pas moi, c'est vous. Donc c'est justement...
Tout à fait.
Revient à cette question
tout
de l'émotion, du sensible.
Le sensible. Le sensible.
Le sensible, ouais.
Et c'est quelque chose de très, très important chez moi. On en a parlé à propos de Jean Kalevitch, le sensible, le conceptuel. Et c'est une pensée qui m'a poursuivi très tard jusqu'à... un philosophe qui est très peu connu, Husserlin, la réhabilitation du sensible. Et ça, c'est Diderot. C'est contre Descartes. Et c'est Diderot. Voilà.
Et toujours à propos de Diderot, est-ce qu'il a aidé à déconstruire les carcans métaphysiques et il a mélangé, un peu comme vous faites d'ailleurs,
oui.
Les genres philosophiques et littéraires.
Tout à fait. J'adore ça chez lui.
Mais vous le faites aussi.
Oui, j'essaie de le faire.
Et ça, c'est une inspiration alors qui vient de lui, cette façon de tout accueillir, de
ça
tout.
Ça vient de lui, ça vient de lui. Le mélange des genres vient de lui.
Vous avez adapté des pièces
oui.
de Diderot.
Oui, oui. Madame de la Carlière.
C'était une.
Et puis il y a eu une pièce qui s'appelait, qui était jouée par Jean-Louis Barrault, par la compagnie de Jean-Louis Barrault. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Qui était joué au rond-point, qui était fait entièrement avec des textes d'Hydro. Et c'était magnifique.
Est-ce que l'adapter au théâtre ouais. représente une difficulté
Ça m'a beaucoup plu de faire ça, de mélanger les genres. Et vous voyez, l'idée de représentation, non pas au sens conceptuel du terme, mais au sens théâtral du terme, voilà, ça me plaît. Je n'aime pas tellement le théâtre que ça, mais ça m'a beaucoup plu de mettre la pensée au théâtre.
Bon, là, on parle de Diderot, mais il y a aussi, dans votre trajectoire philosophique, la présence d'un philosophe contemporain, peut-être, c'est lui de qui vous vous sentez la plus proche. Je parle de Jacques Derrida. Vous dites à propos de lui, je ne me suis jamais détachée de cette énorme influence qu'il a eue sur ce que je pouvais penser et écrire. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Ah oui, tout à fait. C'est l'idée derridienne de déconstruction est une idée qui est fondamentale pour moi. Je ne dis pas que je déconstruis en permanence et que je ne vais pas assez, je ne vais pas très loin dans la déconstruction, mais l'idée de déconstruction de tout ce qui se donne comme un ensemble cohérent et classique me semble une idée fondamentale. Et j'ai hérité ça de Derrida, que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'homme et l'œuvre.
Vous avez été profondément touché par les livres de Jacques Derrida, « L'animal qui donc je suis ». Dans lesquels les philosophes racontaient notamment l'expérience suivante. Son chat les regardait. Il s'est trouvé nu devant lui et subitement, les philosophes ont eu honte d'être nus devant son chat. Pourquoi cet instant est si émouvant ?
Écoutez, j'ai fait un très gros effort parce que je déteste les chats.
Vous êtes une femme amoureuse des chiens, plutôt.
Vous aussi.
Moi aussi.
Bon, c'est très important entre nous, ça. Donc, j'ai fait un immense effort, par amour de Derrida, d'être sensible à ce texte, bon, parce que c'est un très beau texte. Mais quand un animal te regarde, j'ai fait un petit livre pour le théâtre, je ne sais plus quel théâtre de la banlieue, théâtre de Montrouge, je crois. Un petit livre qui a pour titre « Quand un animal te regarde ».
Oui, qui a été publié par Gallimard Jeunesse,
voilà,
justement.
Voilà. Oui. Et ça, cette expérience du regard d'un animal, c'est une expérience formidable, tellement mystérieuse.
Vous avez un souvenir précis ?
Oui, je me souviens des regards de mes chiens. Je me souviens très bien des regards de mes chiens. Mais je voyais hier au marché un très beau chien, un labrador à poil long, qui était attaché près du marché. Et j'étais le caresser. Et il me regardait avec respect.
Insistance.
Avec reconnaissance. Mais en même temps, son regard guettait l'arrivée de son maître ou de sa maîtresse. Il y avait les deux. Il me regardait, il regardait si son maître n'arrivait ou sa maîtresse n'arrivait pas. Et ça, c'est une expérience extraordinaire.
On peut employer les mots complicité ? Est-ce qu'il y a
Bien sûr. Mais complicité, c'est beaucoup plus que ça. C'est une convivialité, un partage de la vie. On a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une chaîne des êtres continue. Là je suis continuiste. Une chaîne des êtres continue qui fait qu'on a un peu les mêmes émotions. Bien qu'on ne soit pas du même genre. Alors, mélange des genres, vous voyez, c'est compliqué. Mais je crois que la convivialité, pas au sens alimentaire et gastronomique du terme, mais le partage de la vie, je crois que c'est le mot le plus juste pour parler de cette espèce de complicité dont vous parlez.
Vous avez mentionné la déconstruction et à propos de cette déconstruction qu'il fait d'Heidegger, vous avez dit quelque chose qui m'avait particulièrement paru clair. Vous dites « Heidegger oppose la patte de l'animal à la main. Il oppose les cris à la parole. Il oppose épier et regarder. Il oppose guetter et questionner. Il oppose... Et selon vous, c'est les plus importants, finir et mourir.
Derrida a été, je ne dirais pas un maître, parce que je n'aime pas ce mot, mais sur l'animal, il a été très très loin, très très loin. Mais de façon un peu abstraite pour moi, parce que ça restait très conceptuel chez Derrida. Il n'y avait pas de rapport, je crois pas qu'il y avait de rapport tellement physique, sauf avec le fameux chat.
Mais encore une fois, ça n'existe. C'était un moment éphémère.
Mais il était très loin dans la proximité. Et c'est un peu contre lui que j'ai écrit « Sans offenser le genre humain » pour me défaire de cette emprise d'Héridène qui consiste à tout déconstruire. Et moi, je ne veux pas tout déconstruire parce que la Shoah, je ne veux pas le déconstruire. C'est un fait que je ne veux pas déconstruire. C'est aussi bête que ça. C'est ça qui me construit. C'est ça qui fait que je peux résister au vertige merveilleux de la déconstruction. Au vertige merveilleux qui consiste à dire qu'il n'y a pas de fête, il n'y a que des interprétations. S'il y a des fêtes.
Est-ce que Derrida y suggérait ça ?
Oh oui, Derrida, oui. Elle est très loin. Elle est très loin.
Trop loin ?
Oui. Ah oui. Oui, je n'aime même pas parler de ça avec lui. Parce que, et oui, mais il n'avait pas la même histoire.
Oui.
Il y a long à dire là-dessus aussi.
Donc, on vient d'évoquer, Elisabeth de Fontenay, cet épisode décrit par Derrida avec son chat. Il y a un autre auteur qui décrit à peu près un moment similaire, on va dire, qui, grâce à vous, j'ai découvert, c'est Jean-Christophe Bailly, qui a écrit dans Les Versants animales. Il décrit, à vrai dire, un moment bouleversant, provoquée par une rencontre furtive avec un chevreuil. Donc il dit, il écrit, « Ce fut comme si de mes yeux, à cet instant, j'avais touché à quelque chose du monde animal. Touché, oui. Touché de yeux, alors que c'était l'impossibilité même. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là et qui sur l'instant m'a ému jusqu'aux larmes, c'était la pensée qu'il n'y a pas de règne, ni de l'homme, ni de la bête, mais seulement des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres. »
C'est magnifique. Mais mon intérêt va surtout vers les animaux domestiques, et pas du tout vers les animaux sauvages.
Et alors, quand je suis tombée sur ces passages-là...
Je suis très sensible à la découverte d'un cheval, parce que j'aime bien les chiens et les chevaux.
Oui. Parce que vous avez, pendant votre enfance, il me semble que vous avez passé des vacances en Normandie.
Oui, j'ai passé mes vacances chez la femme qui s'occupait de nous, et qui était une fille de fermier normand, à quelques kilomètres de la propriété de mes grands-parents, et dans l'Eure. Et nous avons, mon frère et moi, été extrêmement construits, l'un et l'autre, par ses vacances à la ferme. Nous allions très souvent passer les vacances à la ferme, en particulier l'été. Et nous vivions avec les animaux. Je raconte que mon frère, quand on lui demande quels étaient les noms des chevaux, ne se trompe jamais. Rubis, Bijoux et Papillon. Il ne se trompe jamais. Et moi, je m'occupais des vaches. J'emmenais les vaches paître au pré, et j'allais les chercher. J'étais petite fille avec un troupeau de 10 vaches derrière moi. C'est des souvenirs absolument... Je ne suis pas terrienne du tout. Je m'ennuie un peu à la campagne. Je ne regarde pas trop la nature. Je ne suis pas écolo du tout. Enfin, je ne suis pas assez écolo. Mais j'ai cet enracinement fermier très très profond, et mon frère partage ça avec moi. Et c'est très précieux. Alors, les chevaux, c'est pas seulement les chevaux de la ferme, les chevaux de la bourre. C'est aussi les chevaux qu'on monte. Vous êtes monté un peu à cheval ?
Oui, j'avais un cheval qui s'appelait Compas, comme l'objet qui... mathématique, oui. C'est ça ?
Le mystère des chevaux est très profond pour moi. J'ai des images de chevaux partout, à la maison, à la campagne, ici. Cet animal tout à fait énigmatique, qui ne pense pas, qui rêve peut-être, mais qui ne pense pas, c'est évident. C'est pas un animal intelligent, mais c'est quelle sensibilité. La robe d'un cheval, c'est la chose la plus sensible qui existe au monde. C'est la chose la plus frémissante qui existe au monde. Et donc, quand Jean-Christophe Bailly parle de cette continuité, le mot est juste là, entre les vivants, dans ce texte admirable que vous avez lu, j'admire beaucoup. Et je trouve qu'il a raison. Enfin, il a raison. Il est dans le vrai.
Oui, les mots sont justes.
Les mots sont justes.
Juste pour revenir à ce que vous venez de dire à propos du cheval, vous croyez que l'animal puisse être animé par une forme d'intelligence quelconque ? Est-ce qu'on pourrait appeler intelligence quand on fait référence ?
Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Une pensée, oui.
Une pensée.
Mais pas l'intelligence.
Oui.
Une pensée rêveuse, une pensée du corps. Comme disait Nietzsche, le corps est un grand système de raison. Mais le corps du cheval aussi. Le corps du chien aussi. Peut-être aussi le corps du chat. Qui sait ?
Bon, nous avons parlé de Diderot, de Derrida, nous avons évoqué Jean-Christophe Bailly, mais il y a aussi un autre ouvrage qui vous a fait grande impression. Vous avez découvert au début des années 80 la dialectique de la raison des philosophes juifs Théodore Adorno et Max Horkheimer.
Voilà, ça, c'est ma passion, ça. Alors, ces deux-là sont ma passion.
Pourquoi cette lecture ? Parce que vous dites à propos de cette lecture, ça a été un salutaire séisme. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un
petit peu ? Ils étaient obsédés par la Shoah, obsédés par l'idée de déconstruire le système européen qui avait pu donner lieu à ça, le système rationnel européen qui avait pu rendre ça possible. Et ils étaient obsédés par les animaux. Il y a des textes sur les animaux d'Adorno qui sont absolument magnifiques, que je cite. Et c'est, pour moi, c'est, ils sont très, très marqués par Benjamin, mais c'est eux que je mets en avant parce que ce sont vraiment des philosophes et ils me parlent. Dieu ne me dit rien, mais eux me disent quelque chose.
Juste ouais. Pour recontextualiser un petit peu, ils étaient exilés à New York.
Ils étaient juifs allemands,
exilés. Allemand, maîtres de l'école de Francfort, et ils ressentent violemment, et là je reprends vos mots, ils ressentent violemment l'urgence du questionnement de la souffrance animale.
Oui.
Ils ont fait quelque chose qui, à mon avis, si j'ai bien compris, était pionnier. Ils établissent les constats suivants. Jamais auparavant dans l'histoire, comme pendant l'extermination systématique des Juifs d'Europe, des hommes n'avaient subi un sort comparable à celui des bêtes.
Oui, c'est l'abattoir, l'expérience de l'abattoir. Ça, c'est...
Et donc, ça ouvre un champ...
Ah ben oui, ça ouvre un champ, et là, ça ouvre un champ... Je continue à dire, sans offenser le genre humain, bien sûr, mais ce que vous avez lu là et me semble décisif. C'est pour ça que je les aime tant. C'est qu'ils ont vu là qu'il y avait quelque chose de le constitutif de la rationalité intéressée à la survie humaine. Et voilà, on l'a fait, mais on l'avait fait au noir avant. Ce qu'on a fait aux Juifs, mais c'est pas du même ordre, parce qu'on faisait du commerce de Noirs. On ne les exterminait pas pour le plaisir de les faire disparaître. C'est donc une rupture absolue pour moi. Aussi antiraciste, anticolonialiste que je puisse être, je ne peux pas confondre les deux choses. Et Horkheimer et Adorno, de ce point de vue-là, sont des vigies pour moi.
Et si on réfléchit toujours à cette question de la condition animale, vous prenez toujours beaucoup de précautions oui. Pour ne pas justement offenser les genres. Oui.
Alors, le genre humain est un concept humain. Idiot. Moi qui suis pour le mélange des genres littéraires, je suis évidemment tout à fait hostile au mélange des genres que pratiquent certaines folles américaines.
Dites-nous.
Qui couchent avec leurs chiens. Je ne peux même pas le savoir. Donc, je suis très réticente vis-à-vis du mélange des genres. Mais ça va jusqu'à une réticence conceptuelle vis-à-vis du mélange des genres dans la pensée. Et donc, l'idée de continuité, qui est une idée... Michelet, par exemple, a écrit des choses admirables sur la démocratie qui devrait aussi s'occuper des animaux. La démocratie, c'est une partie, la politique est une partie du surnaturel, dit-il. Des choses qui me tiennent énormément à cœur. Mais, quelque chose veille en moi qui me dit de faire attention. Alors, non pas à la spécificité humaine, non pas à la singularité humaine. Je veux pas employer ces mots-là, mais à la différence. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui est un être de langage et quelqu'un qui n'est pas un être de langage. Le mélange des genres animal-humain, ça me fait horreur. Ça me fait horreur. C'est-à-dire, c'est coucher avec. On peut aller très loin dans les caresses, avec un chien par exemple, mais rien de sexuel. Ça reste totalement chaste. C'est une tendresse totalement chaste. Et tout ce qui manque à la chasteté sur ce plan-là me fait horreur.
Vous avez employé un mot tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est être continuiste ?
C'est considérer que la chaîne des êtres est sans rupture. Donc, l'homme ne descend pas du singe. Voilà. Alors, bien sûr que l'homme descend du singe. Mais le continuisme est une idéologie de la continuité entre les vivants tant animaux qu'humains. Cette continuité est un fait phylogénétique. Mais l'idéologie de cela me semble extrêmement douteuse.
Il y a des penseurs en France qui adhèrent à l'idée du
continu... Tous les écologistes. Ils disent des bêtises, mais c'est terrible. C'est terrible comme la pensée d'animal est mal traitée par les écologistes. Peut-être pas tous, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des livres tout à fait remarquables, mais le gros des troupes écologistes voient une continuité dans le vivant. Alors, évidemment, l'appel à la responsabilité humaine, la responsabilité, ça ne dit rien quand on parle des animaux. Le seul fait de poser le problème de la responsabilité humaine fait qu'on fait une rupture, bien sûr. Mais Michelet, par exemple, c'est très continuiste. Et c'est très passionnant, mais c'est un romantique. On pardonne tout au romantique. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, qu'il y a eu le nazisme, où on a traité des êtres humains comme des animaux à l'abattoir, on ne peut plus parler comme ça. Vous voyez, ça revient tout le temps dans ma pensée, dans mon discours. Ça revient comme une idée fixe.
Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay. À demain.
Merci à vous, Dani.
Demain, la suite de cette rencontre de Dany Le Gras avec Elisabeth de Fontenay. Avoigny, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. Avoigny s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.